tournant historique pour la Chine. Pour la première fois depuis 60 ans, le pays le plus peuplé au monde voit sa population baisser. Avec 1,4 milliard de Chinois à ce jour, l'empire du milieu a perdu 850 000 habitants. En 2022, il y a eu plus de décès et moins de naissances. Alors la Chine connaît-elle un essoufflement passager? Son économie et sa démographie peuvent-elles rebondir? Ou l'empire du milieu a-t-il atteint son pic de croissance?
187 millions, la population chinoise pourrait diminuer de plus de la moitié d'ici à 2100 et s'établir donc à 587 millions d'habitants. Elle est aujourd'hui, on le disait, de 1,4 milliard. Chaque année, la population chinoise diminue de 1,1%, un chiffre assez sidérant, hein, s'il se réalise, bien sûr, puisque c'est une projection. François.
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de raisons, mais l'une des raisons principales, c'est le vieillissement de la population. On arrive avec une classe d'âge qui est née entre les années 60 et les années 90, qui justement a fait la force et la vitalité de la croissance chinoise, qui a fait les 40 belles années, les 40 années de croissance.
Est-ce qu'il y avait eu
de contrer ce problème qui n'est pas nouveau, hein, ils le savaient de toute façon, mais jusqu'à présent ça ne marche pas en fait, ils n'arrivent pas. Alors on pourra rentrer dans le détail au cours du débat, mais il ne suffit pas de décréter. Alors ils ont d'abord assoupli en permettant aux couples d'avoir deux enfants et puis après trois enfants en 2021, mais il y a tellement de facteurs qui empêchent en Chine aujourd'hui de vouloir plus d'enfants que ça ne marche pas.
Dans l'avenir, a priori, il y a aussi le fait que c'est très coûteux d'élever un enfant. C'est très très cher et donc du coup on hésite. Et si on n'a pas envie de se projeter vers l'avenir parce qu'on a des inquiétudes, et si par ailleurs c'est très coûteux d'élever des enfants, ça fait quand même deux gros facteurs de
blocage. Est-ce que dans les incitations, il n'y a pas eu d'aide, justement, à ça?
Oui, il y a eu des aides, mais si vous n'avez pas confiance, bon, les aides, elles ne suffisent pas. Ouais. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que maintenant, on autorise effectivement les couples à avoir trois enfants, mais si vous n'avez pas fait le deuxième, vous ne risquez pas d'avoir le troisième, pas le troisième avant. Ouais. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment véritablement un échec de cette politique nataliste.
Et Alice, cette technique a été assouplie puis finalement de facto aboli ces dernières années. Déjà, dès 2015, les couples pouvaient avoir deux enfants par foyer. Depuis 2021, c'est trois. On est qu'au début.
Mais s'il y a moins de femmes, il y a forcément moins de naissances.
Oui, mais si vous voulez, la sélection à naissance et les différences entre les genres est une conséquence de la politique de Deng Xiaoping, surtout, et des conséquences. Donc là, on endigue, en fait, l'inégalité. Aujourd'hui, on trouve peu, finalement, globalement, de foyers qui préfèrent des hommes aux femmes. Enfin, globalement, c'est plutôt le nombre. Comme disait Françoise Nicolas, à la fois, il y a le poids de l'éducation d'un enfant qui a augmenté. L'éducation, les frais de scolarité en université ont vraiment augmenté, y compris dans les universités. Enfin, les universités sont publiques en Chine, et également les pensions de retraite qui sont faibles en Chine, et le système de santé qui est finalement incomplet, à deux vitesses. Donc vous avez les enfants uniques qui sont devenus adultes, qui doivent à la fois soutenir financièrement leurs parents vieillissants et leur enfant grandissant. Ce n'est pas nouveau, mais ça explique pourquoi les foyers chinois ne sont pas engouffrés dans les mesures d'assouplissement de la politique enfant unique depuis 10 ans.
Alors, théoriquement, 60 ans pour les hommes, entre 50 et 55 ans pour les femmes. C'est un âge qui a été fixé il y a 40 ans, quand on mourait pas bien vieux, hein, l'espérance de vie était aux alentours de 50 ans. Le niveau des pensions est très inégal. Alors, selon que l'on vit en ville ou à la campagne, les femmes sont aussi très désavantagées, comme souvent. Tout ça, ça tenait tant bien que mal, sauf que l'espérance de vie, elle s'est quand même considérablement allongée. Elle est passée l'an dernier à 77,3 ans. On a donc dépassé les États-Unis. C'était en septembre 2022. Selon les projections, les plus de 60 ans devrait représenter 30% de la population, c'est en 2050. Alors pour bien comprendre, il faut retenir ces trois chiffres. En 2000, on comptait 10 actifs pour un retraité, pardon. Ils ne sont plus que 3 cette année et ce sera 1,3 en 2050. Et comme c'est un système de répartition, par répartition, comme en France, mathématiquement, dans 15 ans, les caisses seront vides.
Quels sont ? C'est-à-dire le système n'est pas encore développé. Il y a des projets du gouvernement d'avoir un système universel, mais ça ne marche pas. Ce qui se passe aussi, c'est que la plupart des dépenses de santé, les dépenses sociales, reposent sur les gouvernements locaux, les gouvernements régionaux, qui sont déjà très endettés. Donc après, on en arrive à des questions, je dirais, politiques. C'est-à-dire, où vous mettez l'argent que vous avez et quelle part de budget vous consacrez? Est-ce que vous avez envie de dépenser plus pour l'armée ou vous avez envie de dépenser plus pour les soins de santé, pour la retraite, etc. Donc là, on est vraiment sur des choix politiques.
Et quels sont les arbitrages qui sont faits?
Alors, pour l'instant, les arbitrages... Alors, en tout cas, au mars dernier, Parlement, le Premier ministre sortant, Li Keqiang, avait annoncé une hausse, en gros, de 10% des dépenses de santé, à la fois pour pour l'éducation aussi, ouais. Parce que c'est important, l'éducation et la santé. On en est, voilà, c'est de l'ordre des déclarations. Et en Chine, on sait toujours que entre les déclarations et vraiment l'application, il y a toujours un écart.
Tout à fait direct. Hein. Il y a absolument comme mystère pour croître une économie, pour permettre à une économie de croître, il faut qu'il y ait plus de gens qui utilisent plus de capital de manière plus efficace. C'est les trois ressorts de la croissance, tout à fait classique. Il y a un facteur de production, travail, capital et l'efficacité. Et là, si on a ce ralentissement démographique, c'est le facteur travail qui est moins abondant. Donc, par définition, on a un blocage de ce premier moteur de la croissance. Or, il se trouve que, de manière simultanée, l'investissement s'essouffle aussi, et on a observé au cours des dernières années que la productivité n'était plus ce qu'elle était non plus par
le
passé.
Elle a beaucoup baissé, cette
Donc, en réalité, on a les trois ressorts de la croissance qui se grippent en même temps. Donc, c'est pour ça, c'est ce qui explique qu'il y ait ce ralentissement de la croissance que l'on observe depuis maintenant 3 ans. Parce que là, le ralentissement de la croissance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il était amorcé avant le Covid. Mm-hmm. Bon, le Covid n'a rien arrangé, je suis bien d'accord, mais n'empêche que la tendance était amorcée avant, et donc ce que ça signifie aussi, c'est une tendance qui est quand même assez structurelle, et qui vraisemblablement va s'inscrire dans la durée. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on est passé au-delà du Covid, tout va revenir à l'état antérieur. C'est absolument pas le cas, et on aura un ralentissement de cette croissance, et ce ralentissement de cette croissance, il était inéluctable. Il ne faut pas croire non plus là que c'est un accident de parcours. On pouvait s'y attendre, et comme ça a été dit précédemment, une économie qui atteint un certain degré de richesse, il est clair qu'elle ne peut pas continuer à croître à 10% par an. C'est juste pas possible. Il y a un effet de base, si vous voulez, qui explique
ce ralentissement que vous évoquez.
D'abord, il faut souligner que cette levée de la politique zéro Covid a surpris tout le monde, à l'intérieur ou à l'extérieur de la Chine.
Mais c'est d'abord pour des considérations économiques que cette décision a été prise.
C'est pour un mélange de facteurs économiques, mais aussi probablement politiques et sociales, puisque, comme vous le savez, il y a eu des manifestations dans plusieurs grandes villes du pays, et qui ont été, bien sûr, relevées par les autorités. Alors, on dit souvent que la légitimité du parti dépend de la croissance économique, de sa capacité à assurer, en tout cas, un certain dynamisme économique, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi tenir tête aux États-Unis, c'est aussi avoir une diplomatie très active. Mais ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que cet effet stop and go, c'est-à-dire, on ne sait plus. Finalement anticiper ce qui pourrait se passer. On a beaucoup de mal aujourd'hui, que qu'on soit chercheur, qu'on soit journaliste, qu'on soit chef d'entreprise en Chine, expatrié, des représentants d'entreprises étrangères. Il n'y a pas de visibilité. Ça a un impact sur la confiance, notamment les investisseurs étrangers. Et le stop and go, ça a aussi un impact sur les chiffres. C'est-à-dire que, en effet, il y a un ralentissement structurel depuis 10 ans. Hein. Vous vous souvenez, dans les années 2000, on était à un chiffre, souvent, au-dessus de 10%.
On disait même 15%.
Ah, mais ça fait longtemps qu'on n'y est plus. Hein. Ça fait longtemps qu'on est à 7. 5, maintenant en dessous de 3, donc c'est structurel, mais aussi pendant le Covid, il y a beaucoup d'allers-retours. Et donc on va pouvoir, presque la Chine se réouvre, partiellement, mais il faut noter cette réouverture. Il est fort probable qu'on ait des chiffres de hausse de la croissance ponctuelle et limitée dans le temps face à un ralentissement structurel. Mais réellement, c'est très difficile aujourd'hui de considérer que l'ouverture de la Chine va avoir des conséquences durables sur la façon dont la Chine interagit avec le monde, parce que beaucoup d'acteurs extérieurs ont pris...
Là, en fait, en ce moment, c'est ce que disait Alice, c'est qu'on est en pleine expectative. On attend de savoir exactement quelles sont les mesures qui vont être prises. Alors, des mesures ont déjà été prises, hein, en tout cas un engagement à soutenir le secteur immobilier. Certaines mesures un peu d'abandon des restrictions sur le secteur technologique. Donc, on sait plus ou moins que ça va aller dans un sens de relâchement sur certains secteurs, en tout cas. Mais le cadre général est encore assez incertain. Liu He, qui s'est exprimé, le vice-premier ministre chargé de l'économie, qui s'est exprimé à Davos, est sur le départ. Donc, en fait, on attend de savoir, ça sera sûrement le premier ministre qui était chargé de Shanghai et quand même qui a été responsable du désastre du confinement.
Il continue. Mais dans ce qu'il dit, on voit qu'il y a plusieurs objectifs qui sont en partie contradictoires. On va encourager le secteur privé et puis on va aussi encourager le secteur public. Donc, et ça, c'est tout à fait typique, me semble-t-il, de la stratégie de Xi Jinping.
C'est une forme de fébrilité, vous
dire ? Non, mais si on décortique les objectifs et la liste des objectifs qu'il se fixe, il y a assez souvent des contradictions. Donc là, ça va exactement dans le sens qu'expliquait Alice tout à l'heure.
Contradiction ou un petit côté en même temps ?
Petit côté en même temps, oui, certes, mais pour l'observateur ou pour l'analyste, ça pose vraiment un problème parce qu'on a beaucoup de mal à décrypter la direction que l'économie chinoise va prendre. Donc là, je serais tout à fait sur la même ligne que celle qui a été défendue par Alice Ekman tout à l'heure. Il est toujours plus difficile aujourd'hui de décrypter l'économie chinoise ou même la Chine de manière globale.
En fait, vraiment beaucoup. C'est la première fois que je vois autant d'entreprises inquiètes. Ah oui. De leur présence en Chine et poser autant de questions stratégiques.
L'entreprise européenne, mais
oui, européenne au sens large. Nous, on n'a pas, voilà, on est des chercheurs, on travaille pas l'entreprise.
Est-ce que ça peut les inciter justement à se relocaliser davantage en Europe?
Oui, pas uniquement en Europe. Beaucoup, selon les secteurs, se diversifient aussi en Asie du Sud-Est, comme zone de production. C'est pas récent, notamment dans le textile, mais aussi de plus en plus dans l'électronique. On a vu aussi, par exemple, d'entreprises telles que Foxconn avoir faire face à des manifestations ou à des obstacles bureaucratiques.
Des téléphones portables.
Sous-traitants d'Apple. Voilà. Mais en Chine aussi, on a cette réflexion. Sur l'interdépendance, cette réflexion sur la mondialisation. Oui. Par exemple, le gouvernement chinois a lancé un plan qu'il appelle les 10 000 petits géants, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les entreprises chinoises aussi étaient dépendantes dans la chaîne manufacturière. Bon, ils étaient des bons assembleurs, mais qu'il n'y avait pas toujours les machines-outils qui étaient produites en Europe.
Donc, la Chine revient de la mondialisation, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Depuis déjà 10 ans, la Chine défend une forme alternative de mondialisation qui ne serait plus dominée par l'Occident. Donc ça, c'est assez clair et c'est une rivalité très, très nette vis-à-vis des États-Unis qui prédate les tensions commerciales et technologiques. Mais cet positionnement s'est accéléré sous plusieurs effets, bien sûr les tensions commerciales et technologiques, la crise pandémique et plus récemment la guerre en Ukraine avec une politique de sanctions qui est pointée du doigt, il faut le rappeler, par le gouvernement chinois. Donc on est aujourd'hui dans une politique de remise en question de la mondialisation qui est aussi très active en Chine, mais qui s'accompagne aussi à un recadrage idéologique qu'il ne faut pas sous-estimer, un recadrage du secteur du divertissement, des nouvelles technologies, de l'éducation privée et à mon avis, ça c'est mon analyse, à terme recadrage même des pratiques de consommation des Chinois.
Quand ça veut dire quoi, recadrage, pardon?
Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez plus créer une entreprise dans le secteur de l'éducation privée en Chine, des cours du soir, par exemple. Ce n'est plus possible, vous êtes une ONG rattachée aux
recadrage idéologique.
Aux institutions gouvernementales. Mais cela va, à mon avis, toucher aussi les consommateurs, parce que Xi Jinping appelle à mettre fin au culte de l'argent, à l'hédonisme, à l'égocentrisme et toutes ces déviances qui viennent de l'Occident. Donc, il ne faudrait pas trop sous-estimer...
Ça, c'est les conséquences internes à la Chine.
En fait, en ce moment, ce qu'on on assiste plutôt à une sorte de tentative de rapprochement. On a vu avec Janet Yellen a rencontré Liu He justement en disant il faut qu'on...
Chef du Trésor américain.
Chef du Trésor, il faut qu'on dialogue, etc. Donc je trouve que par rapport à la période précédente, on est plutôt dans une phase où les Chinois essayent justement de faire du en même temps. C'est-à-dire d'essayer de se rapprocher des Européens et en même temps d'essayer de garder le contact avec les Américains.
Enfin, ça dépend de ce qu'on voit dans l'affaiblissement économique. On a un ralentissement de la croissance, bon, il est net, et je vous dis, il date pas d'hier. Après, il y a aussi l'effet sur le PIB global de la Chine, qui effectivement est moins important qu'on aurait pu l'espérer. Et donc, du coup, la Chine ne sera pas la première puissance mondiale à l'horizon qu'elle espérait.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est acquis.
C'était quoi l'horizon? 2050
2035, quelque chose comme ça. Mais bon, tout dépend des hypothèses que l'on fait. Si vous faites une hypothèse de croissance de la Chine à 2,5, sur les prochaines décennies et une croissance des États-Unis à 1,5, et ça paraît des hypothèses tout à fait crédibles, ça veut dire que la Chine dépassera les États-Unis à l'horizon 2060. Donc c'est pas demain la veille. Alors, évidemment, du point de vue de l'image de la Chine, comme Xi Jinping avait mis ça en avant, la Chine allait être la première puissance mondiale, etc., etc., c'est embêtant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la Chine n'est pas une grande puissance. Le PIB, ça ne fait pas tout. Si vous regardez le PIB de l'Union européenne, l'Union européenne, c'est théoriquement une grande puissance. Et dans la réalité, ça n'est pas une grande puissance que je sache. Si vous regardez le PIB de la Russie, le PIB de la Russie, il est microscopique. Hein, c'est un dixième du PIB européen. Et la Russie, que je sache, est quand même une puissance. En tout cas, qui empêche pas mal de gens de dormir en ce moment.
Merci.